Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui parle des objets et faits de littérature. Ce soir, nous avons concocté une émission spéciale théâtre. Alors rien de bien foufou, hein, c'est juste qu'on va juste parler d'œuvres théâtrales, voilà. Parce que nous, en fait, on parle de littérature, mais les arts du spectacle, en fait, d'habitude, on connaît pas trop. Et de fait, on se sent obligé de vous signaler qu'il existe une émission beaucoup plus sérieuse que la nôtre sur le sujet, à savoir Tonnerre de Brecht, l'émission diffusée tous les vendredis à 19h pour parler des arts de la scène, animée par Léa et Martin, avec Patrick à la technique. Alors voilà, si vraiment les planches, le théâtre, tout ça, c'est votre kiff, vous pouvez nous écouter, hein, quand même, ça nous fera plaisir. Mais eux, pour le coup, c'est le haut du panier. C'est bon, la crise de légitimité est passée. Ce soir, on va vous parler d'une pièce d'Albert Camus et de l'œuvre d'Alistair Oudéyer intitulée « Plume, fable dufteuse pour interprète étrange ». Et même que, contrairement à Albert Camus, et ben Alistair Oudéyer, on a pu l'interviewer. Mais avant d'attaquer le programme de notre émission, un petit hommage s'impose. En effet, non content d'être l'année du Covid et de plein de lois trop nulles, 2020 c'est aussi l'année qui a vu la perte d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre, qui a sûrement accompagné plus d'un d'entre vous depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Une qui a chanté pour des petits bonhommes et des pipistrelles, mais qui a aussi chanté pour des grands, pour des personnes sans nom. Qui a chanté pour les sorcières, qui a chanté pour ce en quoi elle croyait. Une femme qui aimait la mer, les vitraux de Notre-Dame, qui a écrit un livre où elle cite tous les mots qu'elle adore. Une femme qui voulait dire beaucoup pour pas mal de gens. Alors, pour lui rendre hommage à cette antenne, on vous propose d'écouter Bail Mélanco d'Anne Sylvestre.
Cerisier de l'enfance et photos de vacances, lèvres rouges, maman, ta robe de lin blanc, tous les menus propos et le bruit des cristaux en écho. Les raisins sur la treille, la visite aux abeilles, le petit arrosoir, Mimi ne vient t'asseoir. La dentelle au fuseau, cliquetis des ciseaux en écho. Bye bye Mélanco, je tirais le rideau sur un ciel indigo. Bye Mélanco. Les dimanches moroses, les pétales de rose devant les reposoirs, la prière du soir, quelques pièces dans l'eau, les larmes d'un piano en écho. Le parfum des troènes, la vieille Citroën, ne m'attend pas ce soir, des soupirs dans le noir, ce silence bientôt. On couperait au couteau en écho. Bye bye Mélanco, j'ai tiré le rideau sur un ciel indigo. Bye Mélanco. Une enfance à refaire, où sont passés mes frères, en s'excusant de tout, la honte jusqu'au bout. On porte son grelot, c'est pire qu'à Géricault, en écho. Et sans rien qu'on nous dise, dans une banlieue grise, où des couloirs puants sont ouverts aux enfants, retenir ses sanglots, taper sur les barreaux, en écho. Sur un ciel indigo, bye Mélanco.
Bye Mélanco, Anne Sylvestre.
Balade sur le fil, des amitiés fragiles, une île sur la mer et le cœur à l'envers. Aligner quelques mots sur un accord en do, en écho. Et de plus en plus vite, le temps qui prend la fuite, les enfants, les amours, la richesse des jours, et tout ce dont il faut, écouter le solo en écho. Bye bye, Mélanco, j'ai ouvert les rideaux sur un ciel plein d'oiseaux. Bye, Mélanco. Mélanco, j'ai ouvert les rideaux sur un ciel plein d'oiseaux. Bye, Mélanco.
Bonjour mes petits agneaux en sucre. Oui, c'est un peu maternant, c'est vrai, mais c'est parce qu'on va parler de choses qui font peur. Je me suis dit que ça pouvait vous rassurer. Aujourd'hui, on va parler de théâtre, mais on va surtout parler de terrorisme, d'assassinat et de révolution. On va parler des Justes de Camus. En 1949, lors de la première représentation des Justes, la société n'est pas encore obnubilée par le terrorisme islamiste, ce qui permet à Camus de placer l'action de sa pièce ailleurs que dans l'appartement de Jawad Ben Daoud. Voici le descriptif du sujet de la pièce, écrit par Camus lui-même. Je cite « En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes appartenant au Parti Socialiste Révolutionnaire organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l'ont précédé et suivi font le sujet des Justes. Si extraordinaires que puissent paraître en effet certaines des situations de cette pièce, elles sont pourtant historiques. Ceci ne veut pas dire, on le verra d'ailleurs, que les Justes soient une pièce historique. Mais tous les personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J'ai seulement tâché à rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai. J'ai même gardé au héros des Justes, Kaliaïev, le nom qu'il a réellement porté. Je ne l'ai pas fait par paresse d'imagination, mais par respect et admiration pour des hommes et des femmes qui, dans la plus impitoyable des tâches, n'ont pas pu guérir de leur cœur. On a fait des progrès depuis, il est vrai, et la haine qui pesait sur ces âmes exceptionnelles comme une intolérable souffrance est devenue un système confortable. Raison de plus pour évoquer des grandes ombres, leur juste révolte, leur fraternité difficile, les efforts démesurés qu'elles firent pour se mettre en accord avec le meurtre, et pour dire ainsi où est notre fidélité. Fin de la citation. Pas d'islamistes donc, mais des socialistes révolutionnaires qui ont toutefois, eux aussi, besoin d'un appartement. L'action de la pièce se partage donc au 4/5e entre l'appartement des terroristes et la cellule de prison où sera brièvement incarcéré Kaliaïev. Plutôt que de vous spoiler l'intégralité du contenu de la pièce, je vais plutôt essayer de vous parler des questionnements et des réflexions qu'elle a fait émerger chez moi. À travers les interactions entre les différents personnages, il y a de nombreuses questions qui se posent, comme celle de savoir ce qu'est un vrai révolutionnaire, ce qu'on peut finalement rapprocher d'une préoccupation viriliste, ou bien celle un peu plus consistante de la justification du meurtre ou du martyr au service d'un idéal. D'ailleurs, intéressant de noter que si ces terroristes révolutionnaires choisissent d'agir ensemble, ils ne le font pas forcément au nom des mêmes idées. Mais si ce au nom de quoi ils agissent diffère, ils restent néanmoins pris dans une même nécessité de justifier leurs actes au travers d'une histoire qui puisse les rendre légitimes. Comme par exemple, se dire qu'il est légitime de, je cite, « tuer pour bâtir un monde où plus personne ne tuera ». Et ce besoin de construire une histoire qui justifie nos actions, on l'a tous. Ce qui est vrai pour les terroristes l'est pour tout le monde. Et la beauté du sacrifice, l'attrait du martyr, sont des choses qui nous semblent si lointaines lorsqu'elles se rapportent à des fanatiques religieux, mais qui sont pourtant souvent les mêmes qui font tenir ceux qui se sacrifient tous les jours pour les autres. Dans le contexte actuel, vous n'aurez pas de mal à trouver des exemples. Tous donc pour agir, nous avons besoin de sentir que ce que nous faisons est juste, juste en tant qu'insérés dans une histoire que nous aurons construite pour sentir notre légitimité à agir de la sorte. Mais dans ces histoires que nous créons, des dilemmes persistent, et de nouveau les questionnements des Justes nous éclairent. Refusant d'aller jusqu'à assassiner des enfants au nom de son idéal révolutionnaire, Kaliaïev nous renvoie à un vieux dilemme moral, celui qui met en perspective les moyens et les fins. Si la fin poursuivie est établie comme juste, alors tous les moyens pour l'atteindre sont-ils bons? D'un point de vue logique, la question est mal posée, dans la mesure où on ne peut pas connaître à l'avance la conséquence d'une action. Pourtant, combien d'entre nous ne continue-t-il pas de justifier la valeur d'une action par ses potentielles conséquences positives ? Dans cette pièce, morale et politique sont savamment entremêlées et les différents personnages permettent une circulation des points de vue qui est très bénéfique puisqu'elle nous permet de laisser notre jugement en suspens. Et c'est pour ça qu'il peut être important de lire ou de relire cette pièce parce que ces réflexions peuvent résonner de façon assez intéressante avec le contexte contemporain. Avec ce deuxième confinement, par exemple, j'ai l'impression, et ça n'engage que mon avis d'ermite cloîtrée chez elle sous perfusion d'Internet, j'ai l'impression donc qu'il y a eu dans la population une plus grande propension à la révolte, à la rébellion vis-à-vis des dispositions et des injonctions définies par le gouvernement. Le politique, dans nos vies de citoyens lambda, est devenu assez contraignant pour que monsieur et madame tout le monde décident subitement de ne plus obéir à la loi. Il y a comme une apparition soudaine d'un fossé, le fossé qui sépare le légal, ce qui est autorisé, défini par la loi, et ce qui est légitime, ce qui est autorisé, défini par l'idée de justice qu'on se fait. C'est autour de cette idée que les justes tentent de justifier leurs actes, autour de l'idée de justice, en estimant par exemple que poser une bombe est un moyen légitime d'action, de la même manière qu'on peut trouver légitime de sortir sans attestation parce qu'on trouve ça con. Et en nous faisant rentrer comme ça dans l'intimité des préparatifs d'un attentat et des discussions qui l'accompagnent, la pièce de Camus nous montre qu'il n'y a pas d'un côté les méchants terroristes sanguinaires fanatiques et de l'autre leurs innocentes victimes. Lire ou relire cette pièce, c'est donc laisser flotter dans nos consciences des dilemmes moraux et des questionnements politiques en essayant de se défaire de nos réflexes de pensée. Par exemple, à force de rester focalisé sur le fait que « la violence c'est mal, mais... » on en oublie que, comme le dit François Bégodeau,
« la violence en politique, sa légitimité et sa justesse s'évaluent à sa cause. » Si demain, des gens commettaient des violences contre le régime de Bachar el-Assad, hein, et qu'il y avait comme ça des perturbations dans la rue, hein, des gens qui casseraient des vitrines, qui casseraient... Je suis sûr que tous ici, on dirait, mais c'est normal, leur cause est juste. Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que cette violence est légitime. Donc en fait, l'évaluation de la violence et de la pertinence de la violence en politique doit être toujours articulée à la cause pour laquelle on se met à perpétrer ce genre de violence.
Et s'il est si important d'évaluer la justesse de sa cause avant d'embrasser la violence, c'est pour ne pas se retrouver dans la position de Kaliaïev au début de l'acte 4. Emprisonné, ce dernier reçoit la visite d'un autre détenu venu nettoyer sa cellule sous la surveillance d'un garde. Je vous en lis un extrait.
« Comment t'appelles-tu, frère ?»«
Foka.
Tu es condamné ?»«
Il paraît. »«
Qu'as-tu fait ?»«
J'ai tué. »«
Tu avais faim ?»«
Comment ?»«
Tu avais faim ?»
Non, j'avais soif.
Alors ?
Alors ? Il y avait une hache. J'ai tout démoli. Il paraît que j'en ai tué 3.
Eh bien, Barine, tu ne m'appelles plus frère ? Tu es refroidi ?
Non, j'ai tué moi aussi.
Combien ?
Je te le dirai, frère, si tu veux. Mais réponds-moi. Tu regrettes ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?
Bien sûr ! 20 ans, c'est cher. Ça vous laisse des regrets.
20 ans. J'entre ici à 23 ans et j'en sors les cheveux gris.
Oh, ça ira peut-être mieux pour toi. Un juge, ça a des hauts et des bas. Ça dépend s'il est marié et avec qui. Et puis, tu es barine. Ce n'est pas le même tarif que pour les pauvres diables. Tu t'en tireras.
Je ne crois pas. Et je ne le veux pas. Je ne pourrai pas supporter la honte pendant 20 ans.
La honte ? Quelle honte ?
Enfin, ce sont des idées de Barine. Combien en as-tu tué ?
Un seul.
Que disais-tu ? Ce n'est rien.
J'ai tué le grand-duc Serge.
Le grand-duc ? Eh, comme tu y vas ! Voyez-vous ces Barines ? C'est grave, dis-moi.
C'est grave. Mais il le fallait.
Pourquoi ? Tu vivais à la cour ? Une histoire de femme, non ? Bien fait comme tu l'es.
Je suis socialiste.
Je suis socialiste révolutionnaire.
En voilà une histoire. Et qu'avais-tu besoin d'être, comme tu dis ? Tu n'avais qu'à rester tranquille et tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines.
Non, elle est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, tu ne serais pas là.
Oui et non. Enfin, libre ou pas, ce n'est jamais bon de boire un coup de trop.
Ce n'est jamais bon. Seulement on boit parce qu'on est humilié. Un temps viendra où il ne sera plus utile de boire, où personne n'aura plus de honte, ni barine, ni pauvre diable. Nous serons tous frères et la justice rendra nos cœurs transparents. Sais-tu de ce dont je parle ?
Oui, c'est le royaume de Dieu.
Il ne faut pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice est notre affaire.
Dans cet extrait, Kaliaïev se retrouve à dialoguer avec un de ceux au nom duquel il a décidé d'aller jusqu'au meurtre. Malheureusement, Foka ne semble pas très réceptif au discours révolutionnaire, ce qui permet un léger retournement comique qui ne manque pas de saveur. Parce qu'à force de se battre pour la cause, avec un C majuscule, et au nom des autres, est-ce qu'on ne risque pas de décider à leur place ce qui est bon pour eux ? Finalement, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins obsédés par l'idée du bien. Enfin, je dis nous, c'est peut-être juste Camus, Platon, moi et quelques autres allumés du bulbe. Mais cette obsession, finalement, elle ne nous fournit pas plus de modes d'emploi ou de boussole. Et comme le dit un des justes, c'est facile, c'est tellement plus facile de mourir de ces contradictions que de les vivre. Voilà, je vous laisse avec une petite chanson de circonstance, j'étais un peu obligée d'y penser. Si vous la connaissez par cœur, n'hésitez pas à la chanter en chœur, sinon je vous laisse en apprécier les paroles en espérant qu'elles fassent écho. Allez, bisous révolutionnaires sur vos masques jaunes fluo.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire à n'aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles ? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Mourir pour des idées, Georges Brassens.
Ce soir, j'avais envie de vous faire découvrir une œuvre qui a eu plusieurs petites histoires. Elle est d'abord née dans un cahier, celui de l'auteur qui l'a créée, puis elle est arrivée tranquillement sur les planches, accompagnée par la compagnie du Triangle Noir, une compagnie de théâtre rhodanienne créée en 2019 par Alistair Oudeye, Chloé Vos et Camille Boudin-Norisson. Depuis les planches, elle a croisé la route d'un micro et est disponible désormais sous la forme d'un livre audio. Ce soir, j'avais envie de vous parler de Plume, fable duveteuse pour interprète étrange. Pour reprendre les membres qui composent les trois pointes du Triangle Noir, nous avons Chloé Vos et Camille Boudin-Norisson, qui sont co-crédités en co-création des costumes, lumière, scénographie et son, et Alistair Oudeye, qui quant à lui est à la charge de l'écriture et de l'interprétation. Quant à la version radiophonique, elle est le fruit d'une collaboration entre l'auteur, interprète, et Danae Le Guinic, qui s'est chargée de l'enregistrement et du sound design. Du sound design, vous ne pourrez pas profiter ce soir, car mon but à l'issue de cette chronique, c'est que vous mouriez d'envie d'aller écouter ce que ça peut bien donner. Plume, fable duveteuse pour interprète étrange. Un titre et un sous-titre qui annoncent déjà toute la poésie des mots et des images présentes dans cette pièce. Ces plumes, ce sont celles d'un petit poussin. Enfin, moi j'ai décidé que c'était un poussin parce que, sur scène et sur les visuels, ce sont des plumes jaunes que l'on voit. Et cet oiseau qui va sortir de sa coquille, qui va sortir de son nid et affronter le monde, parfois froid, parfois gris, mais pas que ça, ce petit oiseau-là, c'est un oiseau qui est là pour nous parler des enjeux handi-queer. Handi pour handicapé, queer pour ce qui sort de la norme hétéro-cis. Queer a d'autant plus sa place ici que cela signifie initialement étrange, peu commun, bizarre. Et le bizarre ici, il en est question. Parce que c'est pas tous les jours qu'on en croise des oiseaux. Enfin, c'est ce qu'on croit. Alors je sais que tout cela est un peu flou, mais pour vous résumer le plus simplement la chose, Plume, c'est la pièce qui relate le récit initiatique d'un enfant qui se découvre oiseau. Par oiseau, comprenez différent. Ici, ce différent, c'est peut-être l'autisme, peut-être la transidentité, peut-être le handicap, peut-être autre chose. Tout dépend de où, comment et qui vous permettra d'accéder à ce texte. Pour ma part, je vous propose d'aller à sa rencontre au travers d'un entretien que j'ai pu avoir avec son auteur. Alors déjà, quelques présentations s'imposent. Qui est Alistair Oudeye? C'est la question que je lui ai posée. Donc a priori, je t'ai contacté en tant qu'auteur-interprète. Enfin, j'ai vu après coup que tu utilisais plutôt le terme comédien. Pour avoir suivi ton travail d'abord sur YouTube, en fait, il me semble que tu as pas mal d'étiquettes différentes que tu peux utiliser pour te définir et te présenter. Je voulais te demander du coup de justement te présenter en utilisant les mots qui te semblaient les plus pertinents.
Ben, c'est vrai que personnellement, j'utilise le mot de comédien quand je me définis d'une manière générale parce que c'est à ça que j'ai été formée et que du coup, la majorité de mon travail est plutôt au théâtre en présentiel, on va dire. Mais sur le cas particulier de la version radiophonique de Plume, je pense qu'effectivement, le terme d'interprète fait sens aussi puisque du coup, on n'est pas tout à fait sur le même genre d'exercice. C'est juste que c'est pas le gros de mon activité et la chose centrale à laquelle j'ai été formée et que je pratique d'une manière générale. Donc, c'est pas forcément sur ça que je mets l'accent quand je me présente en tant que personne. Mais dans le cadre de ce projet-là, interprète, ça va très bien aussi. Je me considère aussi auteur, notamment dans le cas de Plume où bah, j'ai écrit la pièce. Et j'utilise souvent le terme de youtubeur ou vulgarisateur pour le reste de mon travail.
Donc ça, c'est plus en ce qui concerne, on va dire, tes activités. Mais aussi, je voulais t'amener sur le fait que t'es pas n'importe qui pour t'exprimer, interpréter et écrire.
Et tu es aussi, alors la pièce en parle, tu es aussi un auteur autiste, tu es également un auteur trans. Et bon, sans vouloir non plus te réduire à ça, c'est une identité qu'on ne voit pas tous les jours dans ce milieu-là.
Oui, effectivement, moi, Plume, je l'ai écrit, c'est pas, j'appellerais pas ça une autobiographie dans le sens où il y a plus que ça et où bah, en plus l'aspect un peu fantastique, fable animalière, etc. fait que c'est pas ma vie, évidemment. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de Lone Voices, c'est-à-dire que je parle de situations et de vécu que moi, j'ai expérimenté moi-même en tant que personne handicapée et en tant que personne trans, en partie aussi dans Plume. Donc oui, c'est... Disons que c'est une œuvre de fiction, mais avec un point de vue situé, quoi.
Si jamais il y a des auteurs et des interprètes qui nous entendent, si vous êtes blanc et valide, vous pouvez vous situer également. Tu as intitulé ta pièce Plume, fable dufteuse pour interprète... Bien sûr, je ne l'ai pas noté, je suis bête. Interprète étrange. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce titre? Parce que j'ai l'impression que chaque mot est choisi vraiment avec le plus grand soin.
En fait, Plume, évidemment, c'est le titre parce que l'oiseau, parce que les plumes. Et les plumes dans la pièce, c'est en gros le mot que j'utilise pour dire le handicap. C'est-à-dire qu'à un moment, le personnage ouvre les yeux, regarde ses mains, ses bras et réalise qu'il a des plumes. Et c'est vraiment le moment où il comprend qu'il est handicapé. La première fois que j'ai fait une lecture publique, la pièce n'avait pas encore de titre. J'ai expérimenté plusieurs choses qui étaient plus ou moins intéressantes ou pas. Et en fait, j'ai trouvé que ce mot-là, il était central dans la pièce, en même temps très simple, en même temps... Il y avait ce côté très doux, très texture, très cocon. Enfin, voilà, je l'aimais vraiment beaucoup. Et en fait, le sous-titre vient du fait que j'avais pas envie que ma narration, elle soit dépossédée de là où elle venait. Ce que je veux dire par là, c'est que je voulais qu'on sache que ce texte-là, il parle pas nécessairement d'autisme, ni même nécessairement de handicap, mais il parle de différence. J'avais envie que si jamais quelqu'un d'autre que moi ait envie de monter et de jouer cette pièce, ce soit des gens qui ont envie de parler de leur propre différence à eux. Et je n'avais pas envie d'être dépossédée de ce texte par des gens qui l'utiliseraient pour parler de quelque chose qui, par exemple, ne les concerne pas ou juste d'une manière générale sans vraiment savoir ce qu'eux ont à raconter avec. Et pour moi, c'était important. Et au tout début, le sous-titre, ça devait être quelque chose comme « Solo pour une autiste » ou quelque chose comme ça. Mais je ne voulais pas réduire ça en fait, aux personnes autistes parce que ce n'est pas intéressant et que cette pièce-là, elle ne parle pas juste d'autisme, elle parle vraiment plus généralement de différence, de corps. Je pense que pour une personne trans, même qui n'a pas de handicap, c'est quelque chose qui fait beaucoup sens aussi, par exemple. J'ai essayé de me dire qu'est-ce qui vraiment est important et pour moi, c'était ça. C'était que ce soit joué par des gens bizarres qui parlent de leur bizarrerie à elle, quelle qu'elle soit, et même si ce n'est pas la mienne. Et je m'en fiche, ça ne me regarde pas quelque part. Mais que ce soit raconté par des gens qui ont quelque chose à raconter de leur différence et de leur bizarrerie et de leur étrangeté vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'est venu le sous-titre « Pour interprète étrange ». Et du coup, « Fable dufteuse », c'était pas déjà, il fallait mettre quelque chose avant pour interprète étrange. Pour moi, le côté fable fait vraiment sens. C'était une manière de nommer cette espèce d'ambiance... un peu poétique, métaphorique, ouais, qui vraiment est dans toute la pièce, qui imbibe la pièce et qui pour moi, définit assez bien l'ambiance et le genre de la pièce, en fait, au niveau littéraire.
On ne reviendra pas sur les morales, on laisse chacun les tirer. Et du coup, je suis allée voir un peu ton mémoire, qui est disponible sur YouTube et sur ton blog en partie. Justement, tu avais cette phrase que tu avais écrite, « Vous parlez de vous hein. ». Pour vous, par vous, entre vous. Nous sommes assis dans la salle, à côté de vous, à côté et jamais avec. Donc déjà, on peut discuter de cette phrase-là en elle-même, mais là, en l'occurrence, j'ai l'impression que Plume, c'était ta façon de prendre ta place dans la salle, mais enfin pas seulement ta place, en donner aussi aux autres, à tes pairs. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, c'était quoi le projet avec Plume? Enfin, s'il y avait une partie de ça, mais il n'y avait peut-être pas que ça non plus.
Oui, évidemment, ça faisait partie du projet, entre guillemets. Avant d'écrire Plume, j'ai rencontré Léonie Castel, qui est aussi une autrice de théâtre handicapée, autiste, et qui a écrit une pièce avec des personnages autistes. Et c'était une des premières fois où, en fait, j'allais au théâtre, où je lisais du théâtre, où il y avait des personnages où j'avais l'impression qu'ils me ressemblaient vraiment. Et aussi, tout simplement, quelque chose de très banal, quelque part, mais c'était la première fois de ma vie que j'entendais le mot autiste au théâtre, en fait. Et le mot handicap, d'ailleurs. C'est juste des mots que je n'ai jamais entendu prononcer sur une scène de théâtre. Et juste ça, en fait, c'était important et c'était utile, c'était précieux. Et ça fait partie des expériences qui m'ont donné vraiment envie d'écrire plume et qui m'ont fait me dire, en fait, il y a quelque chose à faire qui n'est pas fait encore et auquel on n'a pas accès et dont on a besoin et il faut s'y mettre. Et donc, c'est vrai que c'est une expérience qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup donné l'envie et la motivation de mener à bien ce projet-là. Et de fait, quand on a joué plume au théâtre en présentiel, on avait beaucoup de personnes handicapées dans la salle, de personnes autistes, mais plus généralement de personnes handicapées. Et c'était vraiment précieux. Une des autres expériences qui m'a menée un peu sur ce chemin, c'était d'aller voir Dévaste-moi. Et je viens d'oublier le nom de l'autrice. Enfin, de l'interprète, c'est une actrice sourde et c'était un concert de chansons chansignées, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe qui jouait la musique et elle qui signait, slash dansait, slash chantait les paroles. Et en fait, dans la salle, il y avait énormément de personnes sourdes et d'autres personnes handicapées. Et c'était vraiment hyper puissant à voir quand les lumières se rallument et de voir qu'on est tous là, en fait. Des gens que moi, qui ai l'habitude d'aller au théâtre, je ne vois quasiment jamais. Et je me suis vraiment dit, en fait, il faut qu'on crée des œuvres qui permettent à ces gens-là d'aller au théâtre et qui leur donnent envie d'aller au théâtre aussi. Parce qu'en fait, on n'y va pas, parce que ce n'est pas accessible et parce que bah, plein de fois, ce n'est aussi pas intéressant et ça ne nous concerne pas, en fait. Et du coup, ouais, il y avait un peu toutes ces choses-là qui m'ont menée à avoir vraiment envie d'écrire plume. Et de fait, je pense que c'est vraiment l'effet qu'a eu cette pièce parce qu'effectivement, dans les représentations, nous, on constate qu'il y a vraiment pas mal de personnes handicapées qui viennent nous voir, qui nous font des retours, qui viennent nous parler après la pièce et qui nous disent « je me suis vraiment sentie à ma place et je me suis vraiment reconnue et ça m'a vraiment émue à un niveau personnel et intime que j'ai rarement l'occasion d'expériencer, en fait. »
Du coup, merci à Internet. La comédienne chansigne, c'est Emmanuelle Laborie.
C'est exactement ça, merci.
J'aime bien les objets. Ils sont réguliers et prévisibles. Ils ne sont pas violents. Et si on les choisit bien, des fois même, ils ne font pas de bruit. Si on les range, ils restent rangés. Les gens, non seulement, ils ne restent pas rangés, mais en plus ils dérangent les objets. Alors vous imaginez. Les objets ont une constance qui fait qu'ils peuvent se remplir de souvenirs et de sens sans que les actions qu'ils font de leur propre chef ne les en vident, puisqu'ils n'agissent pas. Mes ustensiles de cuisine, ils sont chargés de tous les plats que j'ai fait avec eux, alors que les gens pour lesquels je cuisine, ils vont faire caca 2 heures après.
Pour poursuivre cette discussion, tu as un peu parlé des motivations qui t'ont mené à l'écriture, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait en fait, comment t'as... Il me semble avoir entendu dans un podcast dont j'ai oublié le nom, parce que je suis une journaliste vraiment très professionnelle, que t'avais commencé à reprendre des textes plus anciens.
En fait, au tout début du processus de l'écriture, c'était bien avant que ce soit un processus d'écriture en fait. Quand j'étais ado, j'écrivais pas mal, mais c'était pas des textes... Enfin, il y avait de la littérature, mais c'était pas nécessairement fait pour être lu, et ça avait pas de forme finalisée, c'était surtout... de l'exutoire, mon journal à moi, etc. Et personnellement, je trouve que c'est très inintéressant, très inconfortable et voire violent d'avoir des gens qui, au plateau, partagent des choses vraiment intimes, mais où tu sens en tant que public que ce n'est pas quelque chose qui est digéré et qui est suffisamment mis en forme et où tu as vraiment l'impression que la personne a juste besoin de se vider de trucs qui sont pesants pour elle. Et il y a un côté un peu psychothérapie plus que art. Et j'ai rien contre la thérapie, mais c'est juste pas la même chose, en fait. Et je trouve que ouais, c'est vraiment inconfortable en tant que public d'être mis de force quelque part dans cette position-là. Et j'avais pas du tout envie de faire ça. Je voulais être sûre que la manière dont je construis mon texte et dont je le travaille fasse que c'était vraiment un objet d'art, même si après, il va parler de sujets politiques et intimes, etc. Mais que ce soit un objet qui soit extérieur à moi et qui soit pas juste... autobiographique et thérapeutique pour moi. C'était vraiment pas l'objectif. J'avais l'idée que ces textes-là, à un moment, ils seraient potentiellement utiles et qu'il y avait moyen d'en faire potentiellement quelque chose, mais pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait du matériau brut et il fallait en faire quelque chose, mais c'était vraiment pas fini et c'était vraiment pas offrable, entre guillemets, sous cette forme-là. J'avais dans le coin de ma tête, un jour, dans ces trucs-là, j'aimerais en réutiliser et faire peut-être du théâtre avec. Et plus tard, il y a eu ce qui est devenu la scène finale de Plume, qui était à la base une lettre que j'écrivais à moi-même, qui était bah voilà, en fait, j'ai guéri, je me suis rétablie, je suis devenue adulte, je suis heureux, et voilà tout ce que j'ai besoin de dire à l'adolescent, l'adolescente que j'ai été et qui savait pas qu'elle allait en arriver là, en fait. Et donc j'avais cette lettre là que j'ai pareil retravaillée pour l'adapter à la pièce, au contexte, etc., qui est devenue bah, la lettre aux oisillons, c'est comme ça que je l'appelle, où le personnage justement s'adresse aux générations futures de personnes handicapées pour leur adresser et son soutien et son espoir et son amour. Et donc du coup il y a eu ces deux morceaux là qui n'ont pas été écrits pour la pièce et qui ont été réutilisés après dans l'écriture du texte. Et à partir de là, j'ai écrit petit à petit sur les sujets dont je voulais écrire. Et puis, en les regardant, je me disais, bah là, il manque un morceau de liaison entre ces deux moments en termes de temporalité ou de propos. Il manque quelque chose, donc je vais réécrire une scène, etc. Et à un moment donné, il y a la métaphore de l'oiseau qui est arrivée, qui m'a vraiment parlé, où en fait, il y a ce personnage qui fait en gros un burn-out, une dépression, et qui se roule en boule dans un coin et redevient un œuf pour à nouveau éclore et renaître d'une manière où il reconnaît qui il est et qu'il l'accepte et qu'il voit qu'il est handicapé, etc. Et au moment où j'ai écrit ce truc, je me suis dit, cette métaphore, elle est bien, elle me parle, elle a du sens, il faut que je l'étale en fait à toute la pièce, c'était juste dans une scène. Et du coup, j'ai retravaillé tout ce que j'avais écrit avant pour filer en fait cette image-là de l'oiseau et de la renaissance sur toute la pièce. Et à partir de là, c'était très dans le désordre, mais ça a fini par faire un objet qui était complet et avait une continuité et était dans l'ordre. Mais l'écriture a été un peu chaotique.
Oui, il y a eu pas mal d'étapes apparemment.
Ouais.
Et, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est pas grave, allons-y. Donc tu nous as parlé un petit peu de ce côté métaphore filée de l'oiseau. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as travaillé tous les réseaux des symboles qui sont présents
C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose d'assez... Il y a une part assez spontanée dans le sens où bah, même dans les tout premiers textes que j'avais écrits quand j'étais ado, il y avait déjà ce travail et cette envie de travailler à des mots qu'on retrouve à des moments et à d'autres, et où on se dit, ah oui, genre cette image-là, ce mot précis-là, je l'ai déjà entendu plus haut dans un autre texte ou tout ça. C'est quelque chose qui était déjà assez présent dans mon écriture, même spontanée. Mais c'est vrai qu'après, j'ai vraiment, une fois que j'ai fini d'écrire la pièce, je l'ai vraiment repris pour tisser ce réseau de sens et de symboles et qui soit vraiment cohérent de tout en tout. Il y a la métaphore de l'oiseau, il y a tout le travail aussi des couleurs, où la couleur du corps, la couleur des plumes, la couleur du monde, c'est quelque chose qui va petit à petit refléter les différents états du personnage et les endroits où il se sent en sécurité ou au contraire en danger, dépossédé de son identité, etc. Et il y a tout un réseau de signes effectivement qui se suit sur toute l'œuvre. Et oui, pour moi, il y a une part de spontané où en fait, c'est les images qui me parlent tout simplement et que donc je vais utiliser et qui font sens pour moi et qui vont revenir. Et après, effectivement, il y a eu tout un travail de relecture pour affiner ce réseau-là et ce filet-là de référence au sein de l'œuvre.
Et du coup, je reboucle sur la question de la représentation scénique que tu as déjà évoquée, où il a fallu mettre en scène, etc. J'imagine que du coup, avoir cette écriture très imagée, ça se traduit pas forcément facilement, mais il y a un lien assez évident qui va se faire sur la mise en scène. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment se sont passés ce travail à la fois de préparation pour le théâtre, mais aussi comment ça s'est passé en live? Tu as parlé un petit peu déjà des échanges qu'il y a eu après.
Effectivement, il y avait quelque chose de très évident parce que du coup, j'ai monté la pièce avec deux personnes qui sont Camille Baudin-Nourisson et Chloé Vos, qui étaient en fait présentes le jour où j'ai fait la première lecture publique du texte. Je l'avais fini 3 jours avant et j'allais le lire dans un événement, dans un bar, et elles étaient là. Et elles sont venues me voir et elles m'ont dit, bah, nous, on est costumiers et costumières de formation. Si un jour tu veux monter cette pièce, tu nous appelles et nous, on est chaud. Du coup, j'ai appelé Camille et Chloé. Je leur ai dit, bah, voilà, plume, j'ai relu le texte, j'ai fait mes petites dernières modifications, mes petites dernières finitions. J'ai telle opportunité dans le théâtre qui est à Lyon 2, dans la fac à laquelle j'étudiais à l'époque. C'est à telle date, il faut qu'on fasse un dossier pour présenter notre projet d'ici telle date. Est-ce que vous êtes partant? Ils m'ont dit oui. On s'est retrouvés et en fait, ce jour-là, on est venus chacun avec nos idées et on avait tous absolument les mêmes. J'ai vraiment eu aucun débat. C'est-à-dire qu'on est arrivé, j'ai dit bah, j'avais pensé à tel truc sur telle scène et tel truc sur telle scène. Et ils m'ont dit ah bah nous, exactement pareil. Donc effectivement, il y a une forme qui était finalement assez... évidente et assez facile. Et je ne me souviens pas de moment où on ait vraiment galéré, où on se soit dit là, on ne sait pas comment le mettre pour que ça ait du sens et tout. Évidemment, il y a eu du travail et des changements qui ont été faits au fur et à mesure de la création. Mais la forme de base était vraiment évidente. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'il y a une cabane faite avec des chaises de classe et une couverture qui est en fond de scène et qui est un peu l'œuf, le nid. Donc, la pièce commence où je suis à l'intérieur de la cabane. Donc, on me voit un peu en ombre projetée sur la couverture parce qu'il y a une petite lampe dedans et tout. Et puis, petit à petit, en fait, la cabane se déconstruit. Je sors la tête, puis j'enlève la couette à moitié, puis je la plie, puis je la range. Et à la fin, je reconstruis le nid pour refaire la renaissance, etc. Et c'est une image que j'ai eue depuis le début et sur laquelle ils étaient très d'accord aussi. Et finalement, en fait, bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment pour moi, en tout cas, une pièce de texte. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime au théâtre en premier, il n'y a pas que ça, évidemment, mais en premier, c'est la langue, c'est l'oralité, c'est l'écriture. C'est vraiment le verbe, la parole, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me touche beaucoup et qui est un média qui fait sens pour moi et avec lequel je suis à l'aise, en fait. Il n'y a pas eu besoin de faire une mise en scène très extensive, très imagée. On a 5 chaises, une couverture, c'est l'intégralité de notre scénographie. Et on a quelques projecteurs de blanc un peu chaud, de blanc un peu froid, et qu'on fait évoluer au fur et à mesure des évolutions de couleurs, pareil, qu'il y a dans la pièce et d'ambiance. Et avec ça, on est parti et ça marche, quoi.
Ça m'amène à te poser la question de cette troisième vie, en fait, qu'a eu Plume, qui est l'adaptation en œuvre radiophonique. J'ai lu aussi que des fois, c'était qualifié de livre audio. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail d'adaptation? Déjà, techniquement parlant, j'imagine que ça devait être un sacré travail de changer de format, de passer d'une heure de représentation à 30 minutes d'enregistrement. Il y a eu tout un travail de sound design très très riche autour. Je t'en prie, je te laisse nous parler de ce travail que tu as fait avec Danaë Le Guénic.
Encore une fois, c'est assez amusant parce que on s'est retrouvé à avoir la même idée avec plusieurs personnes sans se concerter. C'est-à-dire que Danaë Le Guénic, qui est donc la sound designer qui a fait la création audio, la création musicale, la mise en son, etc., était donc une ancienne camarade de classe de Camille et Chloé avec qui j'ai travaillé sur la version présentielle au plateau. Elle est au Bauhaus actuellement, donc une école d'art en Allemagne. Et elle travaillait notamment du coup sur le théâtre radiophonique et d'autres disciplines. Et elle a entendu parler par Camille et Chloé de ma pièce et elle m'a dit « Ah, est-ce que tu serais prêt à venir en Allemagne et on enregistre ça et on fait ce projet ensemble ?» Et en fait, moi, au tout début, quand j'avais commencé à écrire Plume, je l'avais pensé pour la radio. C'est-à-dire que j'étais à un stade où, du fait du handicap, de la maladie chronique, et de plein d'autres paramètres, j'étais pas certain de pouvoir retourner au plateau et d'avoir l'énergie et la capacité et l'opportunité de monter cette pièce au plateau. Et je m'étais dit, un truc que je peux faire, c'est de l'enregistrer, mais ne serait-ce juste qu'en voix, en fait. J'avais pas forcément un projet aussi poussé et complexe en tête. Mais le texte avait été écrit dans l'idée que sans l'image, ça marche et que le texte peut être autonome. Et encore une fois, dans l'idée que c'est du théâtre de texte un peu et que bah, même quand on est en présentiel, on a visuellement des choses qui se passent, mais la pièce ne s'effondre pas si on enlève l'image, en fait. Et du coup, bah, je lui ai dit oui, évidemment, ce texte est fait pour ça. Je suis prêt, j'arrive, quoi. Je suis partie en Allemagne 4 jours, je crois. Et en 4 jours, on a enregistré toute la voix, toutes les voix même, et quelques bruitages qui nécessitaient que je sois là, mais assez peu. J'ai surtout fait l'interprétation. Et après ça, Danaë a travaillé 3 mois, je crois.
Wow.
Après, bon, je sais pas si elle a travaillé 3 mois non-stop ou si elle avait d'autres projets en parallèle, mais on a enregistré en juin. La première diffusion publique qu'on a faite, c'était en novembre, mais on l'avait fini un peu avant, on l'a fini en septembre-octobre. On a travaillé, voilà, on a fait d'abord la voix, puis après, elle a fait son montage, ses bruitages en autonomie, parce que c'est son travail à elle. Moi, je suis pas du tout compétent là-dessus, c'est complètement sa création. On a fait une diffusion publique, en fait, de la pièce en novembre, où on était investi dans un festival où le contexte et le format de la salle faisaient que c'était très compliqué pour nous de monter la pièce en présentiel. Ça aurait demandé de refaire complètement la scénographie et on n'avait pas le temps de répétition pour faire ça, en fait. Du coup, on leur a dit, nous, on peut faire Plume, mais on vous propose la version radio. Et du coup, on était 50, je crois, dans une salle et on a diffusé dans le noir avec quelques jeux de lumière pour animer un peu la présentation, la diffusion audio pour la première fois. C'était en novembre l'année dernière, et cette année, on l'a mis en ligne pour que les gens puissent l'acheter et l'écouter chez eux, sur leur téléphone, dans le bus, ce que vous voulez.
C'est ce que j'allais dire quand tu as parlé du fait que pour toi, c'était plus viable, on va dire, de pouvoir avoir la version radio. Tu as aussi ce côté que ça inclut tout un public qui ne pouvaient pas t'entendre auparavant, en fait.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en termes de logistique et en termes de coûts aussi, parce que le théâtre, ça implique quand même qu'en fait, à chaque fois que tu joues, tu payes tout le monde pour une journée de travail, souvent plus parce qu'il y a l'installation, les reprises de répétition, etc. Là où la radio, évidemment, il s'agit de quand même nous défrayer et nous rémunérer sur les droits d'auteur, notre travail, etc. Pour l'instant, là, on est défrayé. Et on commence à gagner nos premiers droits d'auteur, mais on n'a pas été payé sur notre temps de travail. Donc, bon, voilà, il y a quand même des frais humains qui sont avancés et sur lesquels on essaye de pouvoir se rémunérer. Mais ce n'est pas tout à fait le même genre d'investissement financier quand même que la création et la représentation d'une pièce. C'est-à-dire que nous, la pièce, on la vend, la pièce audio, on la vend à 8 euros. Une représentation de théâtre, ça coûte 700 euros, quoi. Donc, on n'est pas sur le même genre d'investissement. Et aussi, du coup, en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut faire ça tout seul. Les gens, ils peuvent écouter ça quand ils veulent, où ils veulent, au rythme qu'ils veulent. Donc, en termes d'accessibilité, d'organisation, c'est beaucoup plus simple. Et on a d'autres projets qui nous intéressent avec cette version radio. De quelque chose qu'on aimerait beaucoup faire, c'est ce que moi, j'appelle des boîtes à lire, c'est-à-dire une installation physique dans un lieu où il y a une boîte avec probablement un MP3 ou quelque chose comme ça à l'intérieur, un casque, un endroit pour s'asseoir. Et tu es dans ce lieu-là, si tu veux, tu peux t'asseoir, appuyer sur play, écouter la pièce et repartir. Et c'est notamment quelque chose qu'on aimerait pouvoir installer dans des bibliothèques, des MJC, ce genre de lieux un peu culturels et qui soient en libre accès du coup pour les gens qui passent par là. C'est une des idées qu'on a avec la pièce radio, mais c'est vrai qu'il y a une liberté de dispositif où nous, on n'a pas besoin d'être là avec les gens en fait. Qui fait que l'approche est complètement différente de celle du théâtre, forcément. Et avec la pandémie, ça tombe plutôt bien.
Je recopie des textes avec des lettres régulières, grandes, et qui font toutes la même taille en nombre de petits carreaux. J'aime travailler la langue comme on travaille l'argile. Épaisse. Pas pour le sens. Pour la matière. Écrire en grandes lettres. Et pas prononcer, mais mâcher. Avec toutes les consonnes et les voyelles qui me remplissent la bouche. Mais j'écris un peu pour le sens aussi. Parce que pour parler, il faut un interlocuteur et le sens de l'improvisation. Quand j'écris, d'abord je réfléchis. Et quand je sais, j'écris. Et si ce n'est pas ça, je barre. Et si ce que j'ai écrit n'est pas juste, alors je ne le dirai pas. Quand tu parles, tu ne peux pas barrer. Et il faut répondre tout de suite. Et tu ne peux pas faire de brouillon. Et il faut savoir quand c'est ton tour de parler et deviner si ton interlocuteur n'a pas envie d'être là. Quand tu envoies une lettre, ou un mail, ou un SMS, alors la personne, si elle n'a pas envie de te lire, elle ne te lit pas. Et si ce n'est pas ton tour d'écrire, tu ne lui coupes pas la parole, et elle te lira quand elle pensera que c'est ton tour d'être lu.
L'une des choses qui m'a frappée en écoutant Plume, j'ai pris des trois notes naturellement, et ce que j'ai écrit sans arrêt en caplock, c'était sensorialité. Hein. Est-ce que ce mot te parle pour qualifier cette pièce-là ?
Oui, complètement, ça me parle beaucoup, et c'est un des points que j'évoque d'ailleurs dans ma note d'intention, en fait, dans nos dossiers de diffusion, nos dossiers d'édition, etc. C'est quelque chose qui est écrit. Pour moi, ouais, c'est vraiment un des sujets majeurs. Je dis que c'est une pièce de texte parce que c'est la parole qui est au centre et le mot qui est au centre, et pas forcément l'image visuelle directe et le mouvement, mais ça ne veut pas du tout dire que c'est désincarné. Pour moi, c'est une pièce qui vraiment a du corps et qui existe physiquement et qui a une corporéité, même encore plus qu'une sensorialité, je dirais. Il y avait vraiment pour moi la volonté de justement, parler de ce que ça fait d'exister dans un corps qui est comme le mien, par exemple. Et c'est vrai que les gens, quand on parle d'autisme précisément, ont l'image que c'est un handicap psy ou cognitif ou intellectuel, enfin quelque chose d'assez cerveau, quoi. ce qui est pas complètement faux, évidemment, mais pour moi, il y a vraiment une très grande dimension physique avec les troubles sensoriels, avec les troubles de la proprioception, dont je parle pas mal. Donc, cette difficulté à savoir où est ton corps dans l'espace, comment bouge ton corps, à avoir de la motricité fine. Enfin, toutes ces difficultés qui sont vraiment physiques, en fait, et ces différences qui sont vraiment physiques. Et je pense qu'après, il y a aussi quelque chose qui est lié au fait que, en plus du fait que je suis autiste, du coup, j'ai une maladie chronique qui cause des douleurs et des difficultés, pareil, de mouvement, de mobilité, de posture. Donc, c'est d'autant plus une question qui est importante et qui est centrale dans mon expérience de personne handicapée. Mais même sans ça, effectivement, il y avait vraiment une volonté de parler du corps. Et il y a beaucoup de paroles sur la température. Qu'est-ce que c'est d'avoir froid? Qu'est-ce que c'est d'avoir chaud? Qu'est-ce que c'est d'avoir mal? Qu'est-ce que c'est d'entendre des choses ou pas? De voir des choses, d'être agressé par la lumière, par le son, etc. Donc, c'est vrai que oui, pour moi, les troubles sensoriels, c'est une partie majeure de l'autisme. Et d'une manière générale, quel que soit le handicap, il y a toujours pour moi une dimension vraiment corporelle et physique. Et c'était de ça dont j'avais vraiment envie de parler.
Pour conclure, je cite encore une fois ton mémoire. Tu écrivais « Il est nécessaire et urgent que nous créions un art et un imaginaire qui nous servent, nous parlent et soient vecteurs d'images positives sur nos vécus et nos identités, parce que nos vies sont en jeu et que seuls nous sommes capables de le faire. » Tu as contribué toi-même avec Plume. On peut espérer qu'il y ait d'autres choses par la suite. T'en as déjà un peu parlé, je crois. Est-ce que tu as d'autres contributeuristes, artistes à partager?
Du coup, je l'ai déjà nommé, mais Léonie Castel a écrit « Les antennes et les branches », qui est disponible sur Wattpad, si vous voulez la lire. La dernière vidéo, au moment où on tourne cette interview que j'ai faite sur ma chaîne, c'est justement une vidéo pour présenter des livres faits par des auteuristes et des dessinatoristes queer et ou handicapés, avec des personnages queer et handicapés dedans. Notamment, je pense nommer Frix, qui a, il me semble, fait le logo de cette émission par ailleurs.
Oui, et qui a été plusieurs fois cité sur cette antenne.
Voilà. Donc Frix, qui fait de la BD et de l'illustration, avec, qui écrit actuellement une BD qui parle de maladie psy. Calvinarium, qui est un BDiste aussi handicapé et trans. Lizzie Brin, qui est aussi une artiste handicapée et lesbienne, et qui a écrit un livre jeunesse, Emma, sa cousine et moi, pareil avec du coup une héroïne handicapée et lesbienne. Pour moi, c'est trois artistes en tout cas que j'apprécie beaucoup et dont je trouve qu'ils contribuent réellement à cette chose dont je parle, de créer des images et un imaginaire qui nous parle.
Je ne veux plus vous voir. Je vais rester un moment ici, puis migrer, rencontrer d'autres oiseaux, trouver le lieu où tout le monde verra bien que j'ai des plumes et où ce ne sera pas un problème. Trouver le lieu où je pourrai caqueter en paix et où tout le monde comprendra. Je vais trouver la volière. Je vais apprendre à voler. Apprendre à chanter. Et alors je reviendrai. Et alors je vous pardonnerai. Peut-être. Et surtout, alors, j'irai voir les oisillons que vous enfermez dans vos écoles et je leur dirai.
Merci à Alistair pour cet entretien. Sachez par ailleurs que si vous souhaitez vous tenir au courant des activités de la compagnie du Triangle Noir, il vous est possible de vous inscrire à leur newsletter. Promis, le spam ne fait pas partie de leur déontologie. Vous pouvez aussi aller à la rencontre d'une autre facette du travail d'Alistair Audeyer en allant découvrir sa chaîne YouTube H Paradoxei. Vous y trouverez du travail de vulgarisation sur les enjeux handi-queer, sur ce qu'est le handicap, ce qu'est l'autisme, mais aussi des résumés super chouettes de pièces de théâtre. Donc si Andromaque vous laisse en galère, n'hésitez pas, c'est par là que ça se passe. Quant à moi, je vous invite encore une fois à aller à la rencontre de Plume. Si en dépit de l'écoute de cet entretien, vous avez envie de vous faire une idée un peu plus précise de ce que c'est, eh bien, le premier chapitre est disponible à l'écoute gratuitement en ligne, et d'ailleurs je mettrai tous les liens en description. Ça et plein d'autres choses. Et si vous allez l'écouter, je vous conseille de vous plonger dans le noir, de vous installer bien confortablement, et de fermer les yeux. Pour écouter les mots qui vont crépiter, les sons qui vont vous envelopper. Laissez la voix vous porter et les émotions vous traverser. Vos poils se hérisseront, vos sourcils grimaceront. Peut-être parfois ce seront vos zygomatiques qui viendront vous chatouiller. En tout cas, Plume ne vous laissera pas indifférent ou indifférente. Avant de se retrouver pour notre mot de la fin, je vous propose d'écouter Alien de Omu.
La sorcière, la transition impalpable, celle qu'on veut tuer, celle qu'on oublie sur la plage. Je suis le chaos, je suis femelle, je suis mâle. Je suis l'ombre, la lune, le soleil et les étoiles. Je suis l'amour délaissé, je suis ton cadavre. Je suis la méduse, je suis percée dans ton âme. Je suis le mouvement, je suis le vent qui t'enlace. Je suis humaine, mais toujours l'alien dans ton crâne. laissez-moi au mou. Hey, 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 hey. La lienne c'est moi, où que je passe ça fait un. La lienne c'est moi, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude des regards qu'on me donne. J'ai l'habitude d'être l'autre des hommes. La lienne c'est moi, où que je passe ça fait un. Sur ton pouls, je suis la révolte, toutes les poches qui portent un coup. Je suis la tornade, la tempête qui te secoue. Le rêve inavoué qui te tient debout. Je suis la rage, la colère et la trop tout. Le sexe dénudé au milieu des tabous. Je suis le dissident et je crie devant vous. Je suis humaine, mais je suis la lune partout. C'est qu'il s'agit de moi, le grand miroir qui reflète leur déni. Mépris grandi, jalouse, nos vies jolies. La lienne c'est moi, où que je passe ça fait un. La lienne c'est moi, ne t'inquiète pas pour moi. J'ai l'habitude des regards qu'on me donne. J'ai l'habitude d'être l'autre des hommes. La lienne c'est moi, où que je passe ça fait un.
Alien, Omu.
Et voilà, cette émission J'irai cracher sur vos planches est déjà finie. On espère que cela t'a plu. En tout cas, sache que si tu as besoin de réécouter ou de partager cette émission, elle est disponible en podcast sur le site de Scilab.fr. Et même que dans la description, on peut retrouver plein de liens, comme le lien du Hello Asso de la compagnie du Triangle Noir, afin d'acheter la version radiophonique de Plume. Pour la modique somme de 8 euros, ça fait franchement un cadeau dématérialisé super sympa. Tu as aussi tout ce qu'il faut pour accéder au travail d'Alistair Oudéyé, mais aussi retrouver les références dont on a pu parler, notamment les textes de Léonie Castel. D'ici qu'on se retrouve, je te souhaite une bonne soirée. Et si tu en as le loisir et l'envie, de bonnes lectures et autres rencontres avec la littérature.